1, 2, 3, 4.
Crazy Afrobeat. Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette heure de Ville Lausannoise, c'est le grand direct et ce soir avec trois sujets pour nous accompagner. On va commencer cette émission avec toi Linda et nous allons parler ensemble d'une maison de naissance.
Oui, bonsoir Fabien, ce soir nous recevons Alexandra Doucet qui est là pour nous parler de son projet, la maison de naissance Eden à Lausanne.
Et bien voilà, le premier sujet donc, une maison de naissance, la rose des vents dans une vingtaine de minutes, ce sera le second sujet, le second volet. Volet de l'histoire de Guinée-Bissau. Vous vous en souvenez sans doute, on avait commencé le récit, c'était le 19 septembre dernier. Ce soir, c'est la suite et la fin de ce récit par notre chroniqueur Lamine de Voix d'Exil. Enfin, tout à l'heure à 7h20, Cultiver Lausanne, Jean-Luc, on va parler cinéma ensemble.
Oui, nous invitons ce soir Delphine Jeanneret, l'une des co-directrices du Festival Cinéma Jeune Public, qui va se dérouler du mercredi 22 au dimanche 26 novembre.
Voilà, ce sera effectivement tout bientôt. La maison de naissance Eden, la Guinée-Bissau, second chapitre, et le festival cinéma jeune public. C'est le programme de ce grand direct jusqu'à 19h à écouter sur radio.django.fm et en DAB sur La Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus dans ce grand direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Ce soir, nous recevons Alexandra Doucet, sage-femme indépendante et cofondatrice de la maison de naissance Eden à Lausanne. Bonsoir Alexandra Doucet.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Depuis bientôt 20 ans, vous aidez les femmes à mettre au monde leurs enfants. Vous avez longtemps travaillé dans les hôpitaux et depuis quelques années, vous travaillez en maison de naissance. Aujourd'hui, vous êtes sur le point d'inaugurer votre propre structure à deux pas du CHUV. Quelle est l'histoire de ce projet, Alexandra Doucet ?
Oui, alors c'est une très belle histoire. C'est une histoire à la fois d'opportunités et de rencontres. En fait, effectivement, en 2012, j'ai décidé de travailler hors de l'hôpital et puis de proposer aux couples d'accoucher et d'être suivis pour un accouchement en maison de naissance. Je travaille encore d'ailleurs dans les maisons de naissance qui existent en proximité de Lausanne et la plus près étant à Lully-sur-Morche, elle s'appelle Lunaissance. Et puis, donc j'ai accompagné de nombreuses familles depuis 2012 et certaines occasions, j'ai rencontré une famille lausannoise qui avait le choix d'accueillir leurs enfants en maison de naissance. Et puis, ils habitent juste à côté du CHUV. Mais il fallait quand même faire les kilomètres pour aller dans une maison de naissance. Donc, du coup, ils ont choisi effectivement de sortir de Lausanne pour aller accueillir leur bébé. Et puis, donc, on a fait ce chemin-là. Et puis, plusieurs mois après la naissance du deuxième enfant, hein, j'ai suivi les deux naissances. La femme m'a recontactée pour me proposer d'ouvrir une maison de naissance dans une partie de sa maison. Donc, c'était un peu un cadeau de la vie. Hein. Et puis, ça ne pouvait peut-être pas se refuser, en fait. Donc, on a pu commencer à rêver à ce lieu comme une opportunité pour les gens qui habitent à Lausanne, éviter de sortir de Lausanne pour pouvoir mettre au monde leur enfant en maison de naissance. Tout ça, ça a pris du temps, hein. C'était en 2016, donc ça a commencé à prendre quelques mois, quelques années hein, maintenant. On s'est mis en lien, parce que moi je connaissais quand même pas mal les maisons de naissance, donc je connaissais un petit peu les contraintes administratives qu'impose une maison de naissance. Donc on s'est mis en lien avec la santé publique et on a commencé à vraiment concevoir la maison de naissance. Donc ça a débuté par des travaux, puisqu'il y a une mise aux normes pour pouvoir avoir les autorisations de la santé publique. En même temps, on a aussi souhaité, on avait besoin d'ailleurs, faire un appel aux dons à la population pour pouvoir nous soutenir économiquement. Donc on a fait un crowdfunding qui s'est terminé la fin, fin octobre, début novembre.
Ah oui, il y a quelques semaines.
Oui, ça fait quelques semaines juste. Et puis c'était... Enfin, je profite d'ailleurs de l'antenne pour remercier tous les parrains parce que c'était d'une générosité fabuleuse et puis c'est très porteur, je pense.
Oui, qui dit crowdfunding dit également succès ou défaite. Vous avez réussi, j'imagine, votre
pari. Oui, alors gestion là, c'est qu'on a réussi.
Non, on peut remercier les gens pour leurs dons alors qu'on y est presque. Ah, là, ouais. Dans le cas d'Espèce, vous avez passé.
Non, on a fini le crowdfunding et on a obtenu l'objectif de 70 000. Hein. Ce n'était pas un petit objectif, c'était un gros objectif. Et puis, ça a été très porteur. On a eu à la fois, bien sûr, des dons d'argent, mais aussi des dons de temps, des dons de matériel. Mm-hmm. Et puis, on sentait vraiment que les gens ont envie d'une maison de naissance ici à Lausanne. Voilà.
Alexandra Doucet, bonsoir.
Bonsoir.
Le statut du projet maintenant, c'est vous êtes vraiment sur le point d'ouvrir.
Alors.
Ou presque.
Presque. On avait annoncé, en fait, des naissances en automne 2017. Et puis, on a posé notre dossier administratif depuis juin, début juin 2017, là. Finalement, donc, au fur et à mesure du temps qui avance et des démarches administratives, il va y avoir de la lenteur qui n'était pas programmable à l'avance. Hein, ça arrive. Et puis, on a un délai qui va se prolonger. On n'aura pas nos premières naissances en 2017. On aura nos premières naissances en 2018. On n'a pas tellement de certitude sur la date d'ouverture puisque c'est vraiment pas dépendant de nous. Les travaux, nous, on les a effectués. La maison est prête. Et dès qu'on aura les autorisations, on pourra ouvrir. Donc voilà. Après, c'est vrai que si on regarde, on a déjà... je travaille avec plusieurs sages-femmes. Hein. On est un petit nombre de sages-femmes à être des sages-femmes qui sont déjà engagées dans le projet, qui vont pouvoir accompagner des femmes pour les accouchements en maison de naissance. Et donc, ces sages-femmes ont déjà de la clientèle propre qui souhaiterait, si le lieu était ouvert, accoucher à Eden. Mm-hmm. Simplement, pour celles qui arrivent donc, et qui n'ont pas encore accès à cette maison de naissance, on leur propose un accouchement sur une autre maison de naissance, actuellement, d'accord, dans laquelle on est déjà agréé.
Et vous disiez que vous aviez commencé en 2012 à travailler dans des maisons de naissance. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans cette approche qui est très différente de l'hôpital ?
Oui, alors moi, j'ai quand même cherché à faire ce qu'on appelle l'accompagnement global. C'est-à-dire, c'était vraiment au fur et à mesure de mon expérience professionnelle hospitalière qui est très enrichissante et qui m'a beaucoup apporté. J'ai toujours été dans connaître toutes les parties de mon travail et pas simplement me sectoriser dans un domaine. J'avais vraiment besoin d'explorer la grossesse, les consultations de grossesse, la préparation à la naissance, j'aime les accouchements et j'aime accompagner les femmes dans ces moments-là. Puis aussi les soins après l'accouchement, tout ce qui est l'allaitement, tout ça faisait part. Je pense que j'avais vraiment besoin et vraiment envie de participer à toutes les étapes de la maternité. Et puis, ce que je trouvais très frustrant, c'était de ne pas pouvoir le proposer à une famille, pour pouvoir les suivre dans toutes ces étapes. Et donc, j'ai cherché comment faire pour pouvoir pratiquer comme ça. Et effectivement, ça correspond à ce qu'on appelle l'accompagnement global, c'est-à-dire proposer au couple des... quand ils le souhaitent, en tout cas dans le démarrage de la grossesse, hein, parfois même très tôt, hein, moi j'ai des couples qui m'appellent très très tôt maintenant, de commencer un suivi et d'élaborer leur projet et de les accompagner pour que leur projet aboutisse. Voilà, c'est ça l'accompagnement global et c'est ce que j'ai recherché en sortant de l'hôpital. Parce que effectivement, ça n'est pas possible au sein de l'hôpital.
Et justement, qu'est-ce qui diffère dans l'accouchement en maison de naissance par rapport à l'hôpital ?
Alors, le jour où vous accouchez en maison de naissance, vous connaissez la personne qui va être là à votre accouchement. Mmh. Et puis, vous lui avez confié un projet. Vous lui avez parlé de qui vous êtes. Vous êtes déjà... Il y a une grande connaissance. Vous vous sentez déjà en sécurité, déjà en intimité avec la personne, mais aussi avec le lieu que vous avez pu visiter. Vous êtes approprié ce lieu. En plus, moi, je suis sophrologue... Donc, ce que j'amène dans ma cour de préparation à la naissance, c'est de la sophrologie. Et c'est vrai qu'on va partager le même outil. Elles vont pouvoir s'appuyer aussi sur ce qu'on a pu apprendre en cours de préparation à la naissance pour pouvoir aller aussi vers leur accouchement, ce qui est le souhait des femmes en maison de naissance et d'accoucher naturellement.
Pour reprendre la question de Linda, la différence médicale entre la maison de naissance et l'hôpital ?
Ah, pardon, je m'écarte.
Non, je prolonge la question compliment. Peut-être.
Alors, la différence médicale, alors, si on reste très pragmatique, hein, l'accouchement en maison de naissance est un accouchement purement naturel. C'est-à-dire que s'il y avait besoin d'une intervention médicale, un médicament ou une opération médicale, on va à l'hôpital. Voilà, donc l'accouchement en maison de naissance, c'est vraiment un accouchement purement naturel. Ça veut dire qu'il faut enlever, par exemple, l'idée de la péridurale. La péridurale qui fait partie maintenant de l'accouchement presque courant, ça, ce n'est pas possible en maison de naissance. Voilà.
Un autre aspect qui revient souvent dans les discussions sur les maisons de naissance, c'est l'insécurité. Il semblerait que ce soit quelque chose de craint. Les femmes qui décident d'accoucher en maison de naissance sont souvent perçues comme un peu téméraires ou prennent un risque insensé. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors, écoutez, maintenant, on a quand même pas mal d'années de recul et il y a des grandes cohortes dans des pays comme l'Angleterre, c'est-à-dire des grandes études avec de nombreux accouchements qui montrent que d'accoucher en extra-hospitalier et en particulier en maison de naissance, lorsqu'on a choisi la population qui pouvait rentrer dans les maisons de naissance, c'est-à-dire ce sont des grossesses qu'on appelle à bas risque, où il n'y a pas du tout de problème de santé, ni pour la mère, ni pour l'enfant, de façon prévisionnelle en tout cas, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas plus de risque d'accoucher à la maison de naissance que d'accoucher à l'hôpital. Ce qu'on constate d'ailleurs, ce que les études démontrent, c'est qu'il y a même moins d'actes médicaux pour la population qui accouche en maison de naissance, bien sûr, avec le même résultat sur la sécurité, sur la santé de la femme et la santé de l'enfant.
Est-ce que vous pensez que le cadre qui est créé par une maison de naissance, à savoir une certaine intimité, un certain silence, une certaine absence de va-et-vient de personnel, est-ce que tout ça, justement, ça ne crée pas des conditions favorables pour que l'accouchement se déroule bien ?
Oui, alors c'est vrai que quand on cherche à explorer, à développer la physiologie de l'accouchement, on va aller là-dedans, on va aller dans la sécurité, dans l'intimité, pour qu'elles puissent, ces femmes, enfin, si on regarde d'un point de vue complètement chimique, hein, qu'elles puissent sécréter les hormones qui vont les soutenir et les aider à accompagner le bébé dans la naissance. Donc c'est à la fois elle et à la fois aussi le bébé qui a des répercussions sur le déroulement de l'accouchement. Donc effectivement, tout ça est très favorable pour un accouchement naturel.
Et ces hormones dont vous parlez ne sont pas sécrétées si les lumières sont extrêmement fortes, que le bruit est extrêmement fort. Enfin, il y a un blocage physiologique.
Il peut y avoir un blocage. Dans ce cas-là, il faut, si on regarde s'il y a une obligation de lumière et une obligation de bruit et tout ça, il faut que la femme elle puisse rentrer dans sa bulle. C'est-à-dire qu'elle ait un outil qu'elle a élaboré en préparation à la naissance pour pouvoir vivre ça. Parce qu'effectivement, parfois, on a besoin de tout ça. Donc, et à ce moment-là, on peut faire appel à nos propres compétences dans notre corps par des outils particuliers qu'on a travaillés.
Et si vraiment, en maison de naissance, ça tournait mal pour une raison X, Y, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, le rôle de la sage-femme hein, et son métier, c'est d'anticiper. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est là pour potentialiser les compétences de la femme pour qu'elle accouche naturellement, hein, avec tout ce système d'intimité, de diminution des stimulations, etc. Mais c'est aussi de vérifier que médicalement, les choses se passent normalement. Si on peut imaginer, si on représente ça avec un système de feu vert, donc la sage-femme, elle est face à des feux verts. Tout est feu vert, elle avance dans l'accouchement. Mm-hmm. Si elle constate qu'un des paramètres devient feu orange, par exemple, ben à ce moment-là, elle transfère. Elle n'attend pas que le feu soit rouge. Donc, elle anticipe l'événement pour pouvoir faire un transfert de façon plus apaisée, moins dans la précipitation. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les études et les analyses, les transferts, en tout cas sur les études qui ont été faites d'ailleurs même dans les maisons de naissance suisses, les transferts, pour raison... la plupart des transferts se font de façon calme. Hein. Mm. C'est pour des anticipations de l'événement. Il y a peu de transferts de manière urgente.
Donc, cette idée qu'on peut avoir de l'accouchement qui tourne au drame en 3 minutes chrono, c'est un peu un mythe.
Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité, mais il existe en maison de naissance et il existe à l'hôpital. Et ce n'est pas parce que vous choisissez l'hôpital qu'il y a moins de qu'il y a plus de sécurité. C'est simplement que effectivement, comme quand on traverse la route, on peut aussi avoir un accident de la route. Et ben effectivement, un accouchement, il peut y avoir des accidents, c'est très rare, mais il peut y en avoir. Donc et on prend pas plus de risques à accoucher en maison de naissance de ce point de vue-là.
Et au niveau réglementaire ou légal, vous avez l'obligation d'être situé près d'un hôpital.
Alors là, les lois réglementaires, c'est moins de 20 minutes. Donc nous, on est à 3 minutes, donc on ne peut pas faire beaucoup plus près. Ou alors, on serait à l'intérieur, ce qu'on ne souhaite pas. On n'a pas non plus souhait à être à l'intérieur. Voilà.
Alexandra Doucet, qu'est-ce que vous mettrez au premier plan quand la maison Eden ouvrira véritablement ses portes ?
Pour moi, j'ouvre ces portes pour que ces bébés viennent au monde dans les meilleures conditions. Et puis que ces femmes, elles vivent ce moment avec le plus de calme et de sérénité possible. Voilà. Et les familles aussi, pour que les pères aussi puissent vivre cet instant vraiment très, très fort.
En tout cas, un grand merci pour votre venue. Beaucoup de succès dans la suite de vos activités.
Merci beaucoup, Alexandra Doucet. Merci, on vous souhaite plein de succès, en tout cas avec votre maison de naissance. On rappelle Eden qui se trouve pas très loin du CHUV, mais en lieu privé. Voilà, on le rappelle quand même, c'est important. Et on peut vous suivre sur Facebook pour toutes les informations de l'ouverture,
On a un site aussi, Eden.ch.
Voilà, Eden.ch. On vous met tout ça avec les liens et les détails, avec évidemment cette émission à retrouver sur notre site www.django.fm. Merci beaucoup, Alexandra Doucet, sage-femme indépendante et cofondatrice de la maison de naissance Eden dont on parlait aujourd'hui. Merci, bonne continuation. Et merci à Linda pour la préparation de ce sujet.
Merci.
Il y a ceux qui grandissent et montent dans les étages, ceux qui rapetissent en prenant de l'âge.
Il y a ceux qui bénissent les dieux et s'en font leurs otages, ceux qui maudissent ancêtres et héritages. Il y a ceux qui patauchent dans un grand marécage, ceux qui filent vent arrière, juste un point vers le large. Il y a ceux qui s'envolent sans laisser de message, et ceux qui se dégonflent avant le décollage. Certains qui passent leur vie à mettre des lions en cage, d'autres qui face au défi s'esquivent sans courage. Chacun voit le monde à son image, mais ce n'est qu'un photomontage. Chacun voit le monde à son image, mais ce n'est qu'un photomontage.
En se tenant bien sage, ceux qui agissent libres et sauvages.
Il y a celui qui se prend les rêves dans l'engrenage, et les indifférents qui zonent à la plage. Il y a ceux qui remontent les problèmes à la nage, et celui qui attend assis sur ses bagages.
Chacun voit le monde à son image, mais ce n'est qu'un photomontage. Chacun voit le monde à son image, mais ce n'est qu'un photomontage. Photomontage.
Chair et de rouage, toujours en action.
illusion. Il y a ceux qui foncent tout droit dans le mirage. Et moi, dans mes tournants, toujours en dérapage. Chacun voit le monde
à son image, mais ce n'est qu'à
son image. Chacun voit le monde
à son image, mais ce n'est qu'à
son image.
Photomontage,
photomontage,
photomontage.
Ceux qui grandissent et montent dans les étages. Ceux qui rapetissent en prenant de l'âge.
Voilà pour ce groupe lausannois qui s'appelle Marquise. C'est une nouveauté sur Radio Django avec cette chanson Photomontage. On les recevra début janvier dans Cultiver Lausanne puisqu'ils ont quelques actualités qui se dérouleront entre février, mars et avril. Un groupe lausannois qui mérite à être connu, vous le verrez vous-même.
Radio Django, La Rose des Vents.
18h21 sur Radio Django et on continue ce grand direct avec La Rose des Vents et on retrouve la rédaction de Voix d'Exil comme chaque mois avec Lamine. Bonsoir Lamine.
Bonsoir Fabien.
Alors le 19 septembre dernier, Lamine, tu nous présentais le premier volet de ta chronique intitulée « Cri d'un Bissau-Guinéen en exil ». Et aujourd'hui, tu nous présentes la deuxième et dernière partie. Ta chronique relate donc la situation de crise que traverse actuellement la Guinée-Bissau, pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest, on le rappelle.
Effectivement, Fabien, cette deuxième partie de ma chronique a été préparée à partir d'un extrait d'un texte intitulé « La va sans queue ». Ce texte a été écrit en portugais il y a une année par un compatriote bissau-guinéen qui s'appelle Philomène Pina. Je l'ai ensuite traduit en français pour le partager avec vous.
Quelle chance on a, effectivement. On t'écoute, Lamine, pour la lecture de ce texte.
Faites attention. Cette situation extrême a atteint la ligne dangereuse. Elle est trop grave pour ne pas interroger un par un, pour savoir qui sont ces politiciens et pourquoi ils veulent gouverner ce qui est à tous, notre Guinée-Bissau. Ces politiciens ont perdu toute légitimité morale pour représenter les souhaits du peuple. Ils avaient une tolérance possible dans ce jeu créé par eux. C'est compliqué. Ils ne méritent pas d'extension de leur mandat. Pire encore, leur conscience politique n'a plus sa place dans la société. Aussi, ils n'ont pas réussi à abandonner ce match de politique, à rassembler les foules, à aller face à la vie, à solutionner les problèmes ou à avoir de longues années de repos en donnant la paix aux braves gens. Un état d'obsession du pouvoir a bloqué tout ce processus d'avancée politique. Plusieurs tentatives des politiciens pour sa résolution ont échoué. Il n'y a pas eu d'importants progrès presque nulle part. Ces hommes ont une réflexion rythmique, une résolution trop lente. Nous assistons à un parcours qui a échoué, à un sac de nœuds qui produit de plus en plus de conflits entre personnes ou groupes. En analysant tout cela, on peut visualiser une énorme foule dans un mélange de lignes de la même couleur sans aucun point où vous rattraper. Remplacement au pouvoir des politiciens incapables par d'autres politiciens incapables, un échec devant cette situation complexe et difficile. C'est un système mafieux qui se transforme en conflit global dans le pays. C'est une guerre d'intérêts des groupes installés dans le pays. Le vrai problème de la Guinée-Bissau est plus facile à résoudre que les guerres de pouvoir et d'intérêts personnels des politiques en activité. Ils confondent leurs problèmes personnels avec ceux du pays même.
Lamine, tu viens d'évoquer une guerre d'intérêts des groupes installés dans ce pays. Au fait, quelles sont les forces en présence?
Les partis politiques auxquels je pense que Philomène Pina fait référence sont très probablement les suivants. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le Parti pour la rénovation sociale et l'Union pour le changement.
D'accord.
Je poursuis. Tous ensemble, ils constituent cet énorme sac de nœuds à la tête de notre pays, à de rares exceptions près. L'un étant pur que l'autre, le seul responsable des problèmes du pays. Aujourd'hui, nous avons un pays pratiquement arrêté. La seule institution qui est l'institution militaire doit encore être félicité pour la sérénité et la non-ingérence dans les affaires politiques du pays. Elle ne s'occupe que de la défense et de la sécurité de l'État de République de Guinée-Bissau et en le faisant très bien. Je vois qu'après Conakry, nos politiciens ont encore compliqué les humeurs des partis parlementaires et non parlementaires. Il y a eu encore plus d'idées réactionnaires de blocus, reflétant une congestion de lecture sur les accords de Conakry. Chaque idée, avec son gnégnégné de paroles agréables qui ne servent à rien et ne disent rien de profitable, sinon à qualifier les désaccords de Conakry. C'est vraiment un malheureux credo.
En fait, Lamine, pourrais-tu juste nous préciser ce que sont les accords de Conakry avant de poursuivre ?
Oui, bien sûr, Fabien. Ces accords ont été signés le 10 septembre 2014. Leur but, sortir le pays d'une crise politique qui dure depuis trop longtemps. Pour ce faire, ces accords prévoient la nomination d'un premier ministre et d'un gouvernement de consensus jusqu'aux élections législatives qui devraient avoir lieu, si tout va bien, en 2018.
Ah, voilà, ok.
Est-ce que ça vaut la peine de demander qu'ont-ils mangé, bu ou dans quelle eau se sont-ils baignés pendant les 3 jours de camping, vacances, dans la maison du voisin, dans le but de résoudre la crise ? Après tout, rien n'a été fait. Oui, parce que ces politiciens partis à Conakry pour les accords sont tous revenus moins convaincus d'une résolution collective pour former un gouvernement. Ils sont revenus amoureux, sans réponse rationnelle. Ils n'ont apporté que le corps, mais ne connaissent plus l'esprit, la volonté ni le reste. Quelque chose d'étrange est arrivé avec les accords de Conakry. Notre plus grande croyance en l'espoir et la lutte pour le peuple sera-t-elle exaucée ? Peut-être, pour cette raison, il faudrait mieux prendre des vacances pendant de nombreuses années. Puisque personne n'a démissionné du poste qu'il occupe aujourd'hui, une initiative politique sérieuse devrait arrêter cette avancée des absences et le rejet d'une action politique sérieuse en Guinée-Bissau. Méfiez-vous de cette image de confusion qui précède généralement le pire scénario social et politique. Il faut éviter un effondrement ou une perte de contrôle politique de la nation. Quelque chose de bien ? Il faut le faire. Ne serait-ce parce que ces politiciens ne satisferont jamais les attentes de la résolution de Conakry ? Jamais et jamais, elle ne se concrétisera, croyez-moi. Parce que nous avons à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays de très bonnes sauges. Tous les Guinéens, nous les considérons comme des camarades. Si le pays semble aujourd'hui être une vache en queue à la dérive, incapable de secouer les mouches, c'est notre faute d'être têtu et de laisser les mouches là où elles ne peuvent pas être. Pensez-y.
Merci beaucoup, Lamine, pour ta chronique ce soir qui a été réalisée à partir d'un texte intitulé « La vache sans queue » de Philimonea Pina, que tu as donc traduit, hein, si on a bien compris, Lamine. C'est ça, hein, le texte que tu as traduit, toi, pour le français.
Oui, c'est bien ça.
Voilà. Je rappelle que tu es rédacteur de Voix d'Exil, le média à porter la parole des requérants d'asile de Suisse. Et d'ailleurs, rendez-vous sur votre site voixdexil.ch avec vos nombreux articles. Et vous mettez également en lien la chronique de ce soir, la chronique du 19 septembre, tout comme nous sur notre site www.django.fm. Merci beaucoup, Lamine.
Merci, Fabien. Bonne soirée.
Je ne te connais pas. T'es qui là, mais enfin, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une matinée où je sais que tu vas me bercer et je pars vers d'autres hasards. C'est une après-midi où je fuis, mais tu me poursuis. C'est un soir où le fait boire m'aide à oublier. J'essaie de t'effacer, je t'ai encore tout donné. C'est la fin de la nuit, tu m'as encore tout pris entre nous. Et ça m'en fout, tu me respires, j'en suis vif, tu me regardes. Je te garde, je te garde.
cette fois tu m'as vaincu, j'ai encore trop buté. Qui là, je ne te connais pas. T'es qui là, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que t'as. C'est une matinée où je sais que tu vas me bercer. Et je pars vers l'autre hasard. C'est une après-midi où je fuis, mais tu me poursuis. C'est un soir où le fait de boire m'aide à oublier qui tu es. Je peux pas te blairer. C'est la fin de la journée, j'essaie de t'effacer. Je t'ai encore trop donné. C'est la fin de la nuit, tu m'as encore tout pris entre nous. Et ça m'en fout, tu me respires, j'en suis ivre, tu me regardes. Je te garde, je te rends compte, tu me montres que j'ai perdu. J'ai encore trop bu, tu me respires, je me sens faiblir. Tu me regardes et je tarde, je te revois. Cette fois tu m'as vaincu, j'ai encore trop bu.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Dans quelques instants, on se retrouve avec Jean-Luc pour parler culture, comme chaque semaine, dans Cultiver Lausanne. Et il sera question ce soir du festival Cinéma Jeune Public qui commence en fin de semaine. Nous en parlons donc dans quelques instants, juste après encore quelques notes de musique, celle de No Doubt.
Retrouvez cette chronique en podcast sur django.fm. Radio Django, culture.
Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir Fabien.
Ce soir, nous parlons du cinéma pour les enfants et les jeunes. C'est ce que propose pour cette troisième édition le Festival Cinéma Jeune Public à partir de demain, mercredi 22, et ce jusqu'à dimanche 26 novembre.
Oui, cette manifestation relie aussi dans une action commune cinq espaces culturels lausannois, quatre cinémas indépendants, le cinéma, le cinéma Bellevaux, le cinéma Hobo City Club de Puy, ainsi que l'école de jazz et de musique actuelle. Un nouveau partenaire cette année, la Cinémathèque de Suisse, qui rejoint le festival pour ses 5 jours de projection.
Et voilà, tout ça des bonnes nouvelles. Et pour en parler ce soir, nous recevons Delphine Janaret. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes la directrice de cet événement.
Oui, Delphine, d'où vient l'origine de ce festival, hein? Pourquoi un festival dédié uniquement aux jeunes publics? Un besoin, une demande, une nécessité?
Alors déjà, je suis la co-directrice, on est 3 directrices, Cécilia Beauvais et Gisèle Comte à mes côtés. Et on a monté ensemble ce festival il y a donc 3 ans, parce qu'on a réalisé qu'il n'y avait pas un choix extrêmement large et surtout un choix de films indépendants et expérimentaux pour le jeune public et pour les enfants. Et puis on voulait pouvoir proposer ça aux familles. En dehors de la lanterne magique, en fait, pouvoir proposer vraiment quelque chose, une activité qui se fait en famille ou avec des amis, des jeunes, et proposer des films et des ateliers également.
Oui, une question quand même par rapport aux nouvelles technologies. Hein, avec, je veux dire, actuellement, tous les enfants sont submergés par ces images. Et le cinéma donc, est encore important pour les jeunes et les enfants. Vous trouvez c'est quelque chose d'important de leur faire voir d'autres types d'images, d'autres histoires?
Au-delà de d'autres types d'images et d'autres histoires, c'est aussi la question de l'expérience collective, en fait, dans une salle de cinéma. L'idée de réunir plusieurs enfants ou jeunes dans la salle ensemble, d'en discuter après autour de conversations avec des réalisateurs, réalisatrices invités, et puis d'en discuter entre eux également.
Et cette année, le festival s'articule autour de la thématique intitulée « Bestiaire », un voyage animal et sauvage aux couleurs de nos amis les bêtes. Pourquoi le choix de cette thématique ?
On avait envie de rigoler un peu après la thématique autour du genre l'année passée, autour des avant-gardes la première année. On avait envie de quelque chose d'un peu plus léger, mais quand même adresse des questions fondamentales sur le rapport entre l'homme et les animaux, l'enfant aux animaux, également les jeunes aux animaux, et puis aussi la représentation des animaux au cinéma.
Et vous avez concocté un programme avec des films du monde entier, hein, comme l'année précédente, et pour tous les âges. Quelles en sont les grandes lignes ?
Alors, les grandes lignes, c'est surtout peut-être notre cérémonie d'ouverture qui se déroule à la Cinémathèque Suisse, donc dans la grande salle du Capitole, avec le film « Mon voisin Totoro », qui est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma d'animation japonaise de Miyazaki, et qui est présenté donc, en version française pour les plus jeunes. Et puis sinon, y a tout un programme de courts-métrages, de longs-métrages, animations, documentaires, fictions, qui se déclinent autour de cette thématique.
Et comment s'est déroulé vos contacts avec la Cinémathèque Suisse ? En fait, c'est une idée comme ça qui a surgi, ou bien c'est la Cinémathèque Suisse qui vous a approché parce qu'ils étaient intéressés par ce que vous faites au niveau du cinéma pour les enfants ?
Alors, ça s'est fait un peu des deux côtés, mais c'est vrai que la Cinémathèque était très intéressée à l'idée d'accueillir le Festival de cinéma jeune public, parce qu'eux-mêmes ont moins peut-être de séances aussi pour le jeune public, et puis que c'est un festival qui propose des films indépendants et donc qui va aussi dans la veine de ce que la Cinémathèque fait, puisque film indépendant du patrimoine et film indépendant récent, contemporain.
Et c'est un sacré pari de cette grande salle du Capitole.
Tout à fait, ça fait un peu peur, mais on verra bien.
Alors, il y a deux magnifiques programmes aussi de courts-métrages sans dialogue, hein. Le premier Drôle de bête et le deuxième Doux comme un agneau. Vous avez vraiment la volonté de donner accès donc, aux tout-petits. Hein. C'est ça que je trouve assez incroyable, parce que c'est peut-être ça qui vous distingue aussi des autres organisateurs.
Oui, effectivement. Alors là, on s'adresse aux enfants dès 4 ans avec un programme qu'on a fait nous-mêmes et puis un autre programme à qui on a offert une carte blanche en fait au Festival international du court-métrage de Oberhausen, qui est le grand festival de court-métrage européen, qui est un des plus anciens d'ailleurs, et puis qui nous a concocté un programme issu de leur collection de films. On est très contente aussi de pouvoir avoir une collaboration avec ce festival extrêmement reconnu et qui du coup reconnaît aussi notre festival en devenir.
Mais comment se passent ces contacts ? Vous allez voir le festival directement sur place ou bien...
Alors moi, je travaille comme programmatrice dans un autre festival de court-métrage à Winterthur, ce qui fait que je suis en contact avec beaucoup d'autres festivals, notamment le festival de Oberhausen. Et j'ai parlé avec les directeurs et directrices artistiques qui ont été tout de suite assez emballés à l'idée de proposer une carte blanche pour les plus jeunes.
Qu'en est-il de la collaboration avec l'EJMA où seront projetés trois films, hein, celui de Jean Pinlevé et Geneviève Hamon le samedi 25 novembre à 16h. Comment ça se passe cette collaboration ?
Alors en fait, ça, dès le départ, on a approché l'EJMA pour pouvoir mettre en place un atelier de création musicale et qui donne ensuite lieu à un ciné-concert. Donc, c'est-à-dire que c'est des enfants de 8 à 12 ans qui, pendant deux week-ends, créent une bande-son sur des films assez expérimentaux, en fait, et qui ensuite montrent le résultat aux spectateurs et spectatrices du ciné-concert. Et cette année, on s'est du coup réapproprié les films de Jean Pinlevé et Geneviève Hamon, notamment Les Amours de la pieuvre, qui est un film assez mythique des fonds marins, voilà, très beau, très poétique.
Vous n'avez pas oublié le public des 10-12 ans, hein, en proposant une série de fictions documentaires avec notamment Little Bird, du Hollandais Boudewijn Kool, l'histoire d'un jeune garçon qui apprivoise un chouka. Les documentaires Yeti Yetu, une carte blanche au musée de zoologie de Lausanne, hein, c'est aussi passionnant de faire ça. Animal Farm, la ferme des animaux, une adaptation de la fable satirique de George Orwell, ou encore Léviathan, un documentaire qui nous avertit des menaces de la pêche intensive, autant qu'il relève la beauté foudroyante des entrailles de l'océan. Dans ce programme, nous discernons la volonté du festival de sensibiliser les enfants à des valeurs importantes. Vous parlez de l'altruisme, la solidarité, le respect de la diversité culturelle et l'ouverture des esprits. Donc c'est quelque chose d'important pour vous, toutes ces valeurs de faire véhiculer ce type de valeurs par rapport au programme que vous avez monté?
Oui, bah c'est vraiment un peu les fondamentaux de notre programmation et de la cohérence en fait du programme et également du public à qui on a envie de s'adresser, c'est-à-dire de sensibiliser vraiment le jeune public à l'autre, à une autre esthétique, à des choix qu'on a faits et qu'on leur propose.
Donc vous organisez aussi des discussions après certains films, enfin, je veux dire, peut-être pas avec les 0-4 ans, mais il y a des médiateurs, des médiatrices qui...
Oui, il y a toute une équipe de médiateurs et de médiatrices. Il y a aussi tous les invités des films qui sont là. Et puis, en parallèle aux projections, on organise toute une série d'ateliers, dont un jury d'enfants, un jury de jeunes qui vont voir les programmes de court-métrage, en discuter ensuite avec des médiateurs et médiatrices, choisir un film, donner un prix et puis le présenter, présenter leur choix lors de la cérémonie de clôture.
Jean-Luc, tu le citais à l'instant, hein, le film Léviathan. On a un petit extrait sonore que vous nous avez apporté de ce film Léviathan qu'on écoute. Voilà, des bruits d'ambiance, hein. C'est un extrait de ce film Léviathan. Delphine Jeanneret, expliquez-nous peut-être le choix de ce film dans la programmation.
Alors en fait, il s'agit du choix du comité de sélection jeune, qui c'est un comité qui est composé de 5 jeunes cinéphiles de 16 à 21 ans qui ont visionné 3 films. Ils ont visionné Grizzly Man de Werner Herzog, ils ont visionné Bestiaire de Denis Coté et Léviathan justement. Et c'est ce dernier film qui a retenu en fait le plus leur intérêt et puis qui a été choisi pour faire partie du programme du festival.
Oui, vous avez relevé toute la palette d'activités qu'il y a à côté du festival. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus, nous présenter un peu certains de ces ateliers?
Oui, donc on a 8 ateliers à côté des projections. Donc le jury des enfants, le jury des jeunes, le comité de programmation, mais également un atelier de scénario collectif qui est donné par une vidéaste et enseignante de méditation pour enfants, et qui, elle, travaille avec un groupe d'enfants pour créer en groupe une histoire, un scénario et ensuite éditer un petit livre qui est remis aux enfants qui ont participé à cet atelier. Il y a également un atelier de bruitage où les enfants travaillent le bruitage sonore d'un film avec un musicien lausannois, Martin de Morzier. Et puis encore un atelier d'écriture de film qui, celui-ci, a lieu juste avant une projection de film et qui permet en fait d'improviser autour de courts-métrages.
Alors beaucoup d'ateliers affichent déjà complets. Est-ce qu'il y a encore un peu de place, ou bien pour certains d'entre eux?
Oui, il y a encore un petit peu de place pour le jury des jeunes, et puis pour l'atelier d'écriture de films.
Alors quelques mots sur les contacts que vous prenez, soit avec les écoles, soit avec les maisons de quartier, les centres socioculturels. Ça se passe bien ou comment ça se déroule? Vous avez déjà des contacts depuis longtemps, bien depuis la première année?
Oui, alors depuis la première année, on est en contact avec justement effectivement toutes les écoles lausannoises, mais également vaudoises, qu'on invite. On a donc des projections scolaires parallèlement aux projections publiques qui ont lieu le jeudi et vendredi. Et puis, on est également en lien avec les maisons de quartier, avec les centres d'accueil pour enfants et pour jeunes, et qu'on invite à venir assister aux séances et à participer aux ateliers.
Alors, les manifestations semblent prendre de l'ampleur, hein, avec beaucoup plus de partenaires. Comment vous arrivez à gérer ça, cette évolution?
On a une équipe un petit peu plus grande. Et puis, c'est la troisième année. On a réussi à avoir des partenariats aussi plus conséquents. Le budget ne bouge pas tant que ça, mais en fait, on a un petit peu plus de monde qui travaille avec nous. Donc, du coup, ça nous permet aussi de nous développer.
Et le public répond présent.
Et le public répond présent, on espère. Mais chaque année, il y a un petit peu plus de monde. On verra pour cette édition. Mais avec l'ouverture à la salle du Capitole, j'imagine qu'on devrait drainer un peu plus de monde encore que l'année passée.
C'est en tout cas tout le mal qu'on vous souhaite. On rappelle que ce festival se déroule à partir de demain jusqu'à dimanche. Ce sera le 26 novembre dans 4 cinémas indépendants de la ville. Le cinéma Bellevaux, le cinéma Hoblot et le City Club depuis. Et puis le cinéma Capitole sous l'égide de la Cinémathèque Suisse, ainsi qu'à l'école de jazz et de musique actuelle. Le programme du festival, nous, on l'a entre les mains, voilà, en avant-première, mais il est déjà disponible aussi pour vous. Vous pouvez faire le tour et le survoler. Mais pour toutes les informations, si vous n'avez pas le dépliant sur papier, je vous renvoie directement sur votre site www.festivalcinemajeunepublic.ch. Festivalcinemajeunepublic.ch. On vous met le lien, bien sûr, sur le site de Django. Merci beaucoup, Delphine Jeanneret.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes l'une des co-directrices. Merci beaucoup d'avoir participé en direct à cette émission et merci également à Jean-Luc pour la préparation de ce sujet.
Merci Fabien.
Un sujet à retrouver sur notre site comme tous les sujets que vous propose Radio Django, www.django.fm.
I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, know you're not alone.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
se kote ala mana ko minge mogo e furatula dabe ne konia dabe yele ne ma wadobe yele ne fe ne du se kote ala mana ko minge mogo e furatula.
Le grand direct s'est terminé pour ce mardi. Nous avons parlé de la maison de naissance Eden de Guinée-Bissau avec le récit de Lamine de Voix d'Exil et du festival Cinéma Jeune Public. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, rendez-vous pour un troisième volet avec les jeunes de Prélat et les jeunes de Faberge qui se sont plongés dans un exercice de radio cet été. Souvenez-vous, on en avait déjà parlé. Voici le troisième volet, ce sera mardi prochain. Et puis mardi prochain toujours, le portrait du mois, il est signé Aline, ce sera dans la Rose des Vents, et puis nous parlerons du festival des urbaines, puisque la date approche effectivement. Rendez-vous mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau grand direct à écouter sur radio.django.fm et sur Radio La Fabrique, et puis bien sûr le programme à suivre et à retrouver sur notre site www.django.fm et sur notre Facebook @radiodjango. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de vos programmes respectif, il est 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fr.